vous inciter à aller à la salle Jean-Bouin pour encourager nos basketteurs angevins. Max, je te laisse le mot de la fin et puis on va se quitter voilà, avec le générique.
Bien, merci à vous deux pour avoir partagé cette émission. Comme tu l'as dit, Alex, on se retrouve mardi prochain et on vous souhaite une bonne fin de soirée en compagnie de Radio G. Yeah. What's up? Nigga. Yes, me. Yeah. I'm back, baby. Thunder. Ottoman couch, how handsome your furniture, lovely and now, but dressed for a funeral, begging you to sit far apart and on the wall to hang in the dark of some parliamentary hall. Huh, I stay home a lot, no TV, just thoughts and a heap of good weed. Same jeans, same old Converse, baby. In the wild, he so works. I'm cool, some niggas mad at it. Look at him from the outside, fantastic. Can't keep the negative alive, baby. On my dick, if kid could he die, don't cry, hater. I forgive me, go and get my album and get off my dick. I smile and I'm pleasant, the weed is the essence. But if I'm in the club, we can tear the shit up. I'm talking about shots, I'm ridiculous amounts. I said you're gonna raise, this shit we all about. Take another shot, or your soft dream on campaign. I'm the mother loving boss, hit it, suck my balls. I never say goodbye cause I'm on mine. All my life, wanna do something major. Now every little thing I do might make it in the paper. Cuddy found young nigga Popo. Mad drunk in the street, no photo. Hate motherfuckers, don't know yo. I guess this was the life I chose. Wanna get up in my mind. Wanna know about me and Amanda Bynes. Wanna know really, really, really who I'm dating. Is she civilian or super duper famous? Is she African American, Caucasian or Asian? Spanish, yeah. It don't matter, my nigga, I love them all as long as she don't need stupid amounts of makeup to make up the self-esteem, selfish dreams to reflect the blessing, I am that blessing on a cloud, successful raps, I might scream out loud, putting it down for all I met, I'm talking fans, I won't quit, I'm putting it down for all I met, I'm talking fans, I won't quit.
Clear the streets out. Come on with it. Star Trek. Here's his haters. I'm doing deals like the majors. Ice cream sneakers. I signed my first skater.
Vous êtes profondément installé dans votre canapé. Un verre à boire avec modération à portée de main juste à côté de la bouteille à servir avec tout autant de modération. La radio grésille, s'énerve, se lance. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 et vos nouveaux complices sont avec vous. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et maintenant générique maestro.
Mesdames et messieurs, je voudrais porter un toast. Notre hôte, M. Lionel Twain, est un homme remarquable. Primo, il a réussi à rassembler les 5 plus grands détectives privés du monde pour enquêter sur un crime qui n'a pas encore été commis. Secondo, il nous a tendu des pièges Un pont qui menace de s'effondrer, des statues qui tombent. Veut-il nous tuer ? Pas encore. Il aurait pu le faire, n'importe quand. Il essaie simplement d'aiguiser notre appétit pour le jeu qui va suivre. Tertio ! Pourquoi 5 détectives au lieu d'un seul ? Parce qu'il a l'intention de s'attaquer à nous tous, mesdames et messieurs. Exploit qu'aucun esprit diabolique n'a tenté de réaliser jusqu'ici. En conséquence, avant que ce terrible week-end ne commence, je propose que nous levions nos verres afin de porter un toast, soit à un homme infiniment mystificateur et charmant, soit à un fou dangereux et machiavélique. Du sec.
Vous écoutiez un extrait de la version française du film « Un cadavre au dessert », « Murder by Death » en anglais. Un pastiche jouissif de 1976 et de Neil Simon, mettant en scène les plus grands détectives de l'histoire des littératures policières, incarnés pour l'occasion par une pléiade de grands acteurs. J'ai nommé Peter Sellers, David Niven, Peter Falk, Alec Guinness, Maggie Smith et Truman Capote. L'intrigue n'est pas sans rappeler celle des grands détectives n'ont pas froid aux yeux, de l'auteur japonais Kyotaro Nishimura, dans cette édition de 1988 dirigée par François Guérif chez Clancier Guénot, dans la collection Poche, série 33. On retrouve Ellery Queen, Hercule Poirot, le commissaire Maigret et Gokaro Akechi, le héros d'Edogawa Rampo, illustre romancier japonais, réunis pour démasquer le coupable connu d'un vol non encore réalisé. Ils sont là à l'initiative du millionnaire M. Sato, qui entend mener une petite expérience qui ne va pas tarder à lui échapper. Le roman de Kyotaro Nishimura est un hommage fin et érudit à ses prédécesseurs. Il faut plus le voir comme un jeu littéraire qui intègre l'affect, élément moteur de cette intrigue. Le romancier est peu connu en France, il a actuellement 89 ans. Un second ouvrage, Petit crime japonais, recueil de 8 nouvelles mettant en scène des Japonais de la classe moyenne, faisait lui aussi partie de cette ancienne collection. Le premier ouvrage a connu une nouvelle vie chez l'éditeur Piquet, spécialiste des littératures asiatiques. Le second a été réédité par François Guérif dans la prestigieuse collection Poche Rivage Noir l'année dernière. N'hésitez pas à vous laisser tenter. Linda, je crois que c'est à toi.
Est-ce que tu peux nous redire le nom de cet auteur ? J'ai pas bien...
Kyotaro Nishimura, auteur japonais, très peu connu en France, donc qui n'a que 2 ouvrages publiés sur une 20aine, je crois, de mémoire.
D'accord, on va noter ça. Alors moi, ma chronique de ce soir, je l'ai appelée « Amour, charpie et liberté ». Alors la dernière fois, Julien, t'as annoncé ma chronique, justement, sans le savoir. Ouais, t'es trop fort, parce que donc j'avais parlé de l'homme aux lèvres de saphir, d'Hervé Le Cor, et ce soir, c'est Hervé Le Cor 2, le retour, dans la suite.
Dans l'ombre du brasier.
Voilà. Et ça annonce bien la couleur. C'est paru cette année, je fais des progrès, toujours chez Payot et Rivage. Donc, nous sommes dans le Paris de 1871. Les chapitres sont structurés en journées. Ça démarre le 18 mai, 2 mois jour pour jour après le début de la Commune de Paris. Ça finit le 28 mai, date symbolique de la fin de la Commune et de la fin de la Semaine sanglante. Ça annonce bien la couleur aussi. L'écriture est précise, elle est très documentée. L'ex-parisienne que je suis n'a pas pu s'empêcher de visualiser les rues, les places, les ponts en même temps que je lisais. J'étais propulsée dans une espèce de télescopage entre vision du passé et images réelles familières. C'était très étonnant. J'avais aussi en filigrane le livre d'Olivier Prosper, Lissagaray. Là, vous allez me dire...
Qui est
Olivier Prosper, Lissagaray, hein, vous allez me le dire.
P.O. Lissagaray, qui a écrit le livre sur la Commune de Paris.
Voilà, l'histoire de la Commune de Paris de 1871. Alors, moi, ce monsieur... Il fait partie de mon panthéon des gens admirables parce qu'il a vécu la Commune, il a réussi à s'enfuir, il a écrit tout ce dont il se rappelait, puis il a fouiné dans les archives, les journaux, collecté des témoignages, recoupé les informations, débusqué les mensonges officiels. Sans cesse, il a réécrit son livre jusqu'à sa mort en 1901. J'ai eu l'impression en lisant le bouquin de Le Cor que c'était... comme s'il s'était emparé de ce bijou de sociologie historique pour le transposer en aventure romanesque avec date, lieu, déroulement des événements, etc. Par exemple, on retrouve la Cécilia qui essaie de rassembler ses troupes sur la butte Montmartre, où il découvre que les canons ne sont même pas en état de marche alors qu'ils auraient pu enrayer l'entrée des Versaillais dans Paris. Dombrowski, qui demande au comité central un renfort de 3000 hommes et des munitions qui n'arriveront jamais. Eugène Varlin, enfin bon, lui, je vous en reparlerai une autre fois. Et bref, donc qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours? Je résume. L'armée du pouvoir exilée à Versailles est menée par le général de MacMahon. Ce sont 130 000 soldats entraînés qui vont pilonner et écraser les communards de la garde nationale pendant les combats, mais pas que. On fusille les prisonniers, on trucide tout ce qui vit dans les hôpitaux, on tire sur les ambulances et sur ceux qui ont le tort de se trouver là. On exécute sur dénonciation, suspicion, vengeance, enfin tout y passe. Hommes, femmes, vieux, enfants. Les enfants, c'est uniquement par prévoyance. Hein. On n'est jamais trop prudent. Et on achève à la baïonnette. Et c'est ça le brasier dont nous parle Hervé Lecor. On plonge dedans, ça gicle, ça crève, ça poisse l'hémoglobine à tous les coins de page. Et le brasier, c'est également le feu de la haine bourgeoise pour le populo. Ce porc puant, cette volaille braillarde sur son tas de merde. Oh, ben, il faisait moins le malin, hein, le 2 MacMahon, après sa déculottée à Sedan, là, contre les Prussiens. Parce que l'armistice à peine signé, on a le pouvoir versaillais qui s'entend comme cochon avec la nation ennemie pour assiéger la capitale et la nettoyer, je cite, « après 2 mois de souillure ». Les personnages de Lecor ne sont pas dupes. On a dans la bouche de Lucienne une cantinière. J'ai tout perdu. Mon mari, ma petite boutique, tout. Avec ma sœur, on s'est faufilé au milieu des ruines. Les balles nous sifflaient aux oreilles, on a pu arriver ici, à Paris. Maintenant, voilà que c'est encore la guerre. Mais faite aux populos par de bons Français, bien salauds. On a aussi dans les pensées de Nicolas, un ouvrier engagé dans la garde nationale. C'était la guerre qu'on leur faisait, une guerre totale, bien plus féroce, bien plus acharnée que celle de Badinguet et de son état-major de Jean Foutre qu'ils avaient livré aux Prussiens. Alors Badinguet, c'est le sobriquet de Napoléon III, pour info. Avec une nation étrangère, on finit par conclure une paix, par signer des redditions ou des traités. Entre eux, princes et généraux, parfois bâtards du même sang, ils finissent toujours par se faire des politesses. Mais quand il s'agit de combattre le populo, pas de trêve, pas de quartier. Massacrés, taillés en pièces, pour qu'il ne reste plus que silence et terreur. Plus loin, toujours Nicolas, on dit que les Prussiens ont relâché 10 000 prisonniers pour qu'ils viennent grossir les troupes versaillaises. Moi, c'est un brasier qui m'a bien fait froid dans le dos, je vous le cache pas. Alors, dans l'ombre de ce brasier, on a ceux qui profitent du bordel ambiant pour faire fructifier les magouilles, en l'occurrence un trafic de très jeunes filles. Et c'est la partie intrigue policière que je ne vais pas développer ce soir, parce que d'abord, c'est moche, et au niveau de la rubrique Sharpie, c'est bon, on a notre dose. Et puis, je ne veux pas éventer le dénouement pour ceux qui voudraient lire le premier livre. Maintenant, j'ai parlé d'amour. Alors, pour respirer un peu, entre deux pages, on a Nicolas, qui est amoureux de la belle Caroline. C'est un très beau personnage féminin. Elle a laissé son boulot de couturière pour aller rapiécer les communards amochés. Et quand il n'y a plus rien à faire, elle réconforte. Et Nicolas a également deux grands amis, Adrien et Le Rouge. Et ces trois-là, c'est à la vie, à la mort. Enfin, surtout à la mort. Bon, bref. Reste la liberté. Alors la cause est désespérée, alors on se bat pour plus grand que soi, pour après. Nicolas, encore, je vous cite. Nous tous, du pauvre monde, on est plus nombreux qu'eux. C'est impossible qu'ils arrivent à tous nous tenir sous leurs talons encore longtemps. Ce qu'on a essayé de faire, ça servira de modèle. Et ce qu'on a raté, ça servira de leçon. Bon, alors moi je me dis, monsieur Lecor, c'est de l'humour ou une folle espérance? Bon, c'est sûr que si votre Nicolas manifestait aujourd'hui pour une république universelle, en arborant, un petit veston sans manches, couleur citron, vous voyez, c'est le truc moche là qui peut sauver des vies normalement. Eh ben Nicolas verrait que le maintien de l'ordre a bien évolué. Maintenant, on fait ça de loin, c'est beaucoup plus propre. D'accord, les fumigènes, bon, ça brûle la peau, les muqueuses, on a envie de vomir pendant 2 jours. Mais enfin bon, ça laisse pas de traces. Peut-être Nicolas glisserait de temps en temps sur une matraque, amortirait une chute inopinée avec les dents, serait invité à des gardes à vue et prendrait des amendes d'intimidation. Il risquerait aussi de rentrer de manif avec un peu raccourci, mais bon, on peut très bien vivre avec un œil ou une main en moins. Hein. Un conseil toutefois, Nicolas, si tu sais pas nager, prends des cours de natation en fleuve, c'est mieux. Bref, je finis, t'inquiète pas Julien, j'ai terminé. Hervé Lecor. Je pense qu'il nous souffle qu'au-delà du massacre des hommes, c'est l'idée que la classe dirigeante voudrait éradiquer cette idée de bonheur pour tous. Je vais finir avec les mots de Victor Hugo qui parlait de ça et qui disait « Le cadavre est à terre et l'idée est debout ». Ah ouais, Victor Hugo, ça calme toujours.
Des trahisons ordinaires et vins maniaques en route vers l'enfer. Maman hurle sur l'échelle d'incendie. Le 440 se déroute et toutes les mariées s'habillent en noir. Les plaques coulent dans le détroit. Le crack se coupe, les clashs avalent.
Vous êtes sur Radio G sur le 101.5 FM. C'était Noémie qui vous chantait « Y a rien à la radio », un titre hautement anté-prophétique. Alors pourquoi cette chanson ? Eh bien parce qu'elle est issue du quatrième album proposé par les Encres Noires, l'association à l'origine du Festival des littératures policières du Havre. Surtout, les paroles ont été écrites par Marc Villard. Et vous retrouverez ce romancier qui a une très grosse actualité littéraire, puisque paraîtront prochainement Barbès Trilogie à la série noire chez Gallimard et une autre longue novella à la Manufacture de Livres, on en reparlera parce que c'est en novembre. Vous retrouverez donc Marc Villard à la librairie Angevine Contact le jeudi 24 octobre pour fêter le numéro 200 du fanzine La Tête en Noir. Il y sera en compagnie de Ronan Gouézec et de Julien Elbruck. Mais c'est l'heure de notre débat bande dessinée. Alors, amenez les bulles. Au programme cette semaine, Seuls sont les Indomptés, adaptation de Max de Radiguès d'un western crépusculaire détonnant d'Edouard Eubay chez Sarbacane. Mata Hari, d'Esther Gilles et Laurent Patureau chez Daniel Maguen, qui revient sur la vie rocambolesque d'une espionne involontaire dans la Grande Guerre. Et Entrée dans la danse, l'adaptation de Richard Guérino du roman éponyme de Jean Tellet chez Delcourt, transposition d'un fait divers strasbourgeois rythmé.
On commence par quoi ?
Je propose qu'on commence par le dernier, soyons fous. Commençons donc par l'adaptation de Jean Tellet. Un avis, Luc ?
Ah là là, Entrée dans la danse, Jean Tellet. Écoute, moi je vais être clair. Jean Tellet, déjà, c'est quasi rédhibitoire. Son attirance pour la scatologie, le morbide et le voyeurisme me répulse sérieusement. Donc je suis entré dans cette BD un petit peu à reculons. Voilà, y a un graphisme intéressant, mais je reste quand même très dubitatif. La BD m'a pas tellement plu, et elle laisse dessiner ce que doit être le roman, c'est-à-dire que vraiment j'étais un peu en retrait, donc je vais laisser à Toups et Linda certainement défendre avec brio cette magnifique bande dessinée.
moi je tiens à dire que voyeurisme, c'est un truc qui me plaît, en fait. Moi, je suis très, très voyeur et concierge, donc c'est plutôt positif dans le cas de figure. Linda, un avis sur...
Alors, moi, j'ai apprécié... Pardon. Sur certains points, c'est-à-dire que... Oui, je me suis laissée embarquer, moi, je me suis laissée emmener dans la danse. Après, bon, je l'ai lu, je dirais pas que c'est la BD de l'année qui m'a marquée, voilà, mais elle m'a quand même touchée, c'est déjà assez notable. Il y a un truc que j'ai trouvé très beau, alors qui me touche moi aussi, parce que j'ai quand même mon côté danseuse, qui est de professionnelle, là, qui revient, et j'ai trouvé ça touchant. Juste la phrase, donc, alors... Danser, ce serait taire un cri. Et je me suis dit, ah ouais. Et rien que pour avoir lu ça, je me suis dit, moi, je l'ai ressenti, voilà, en tant que danseuse, ça. Après, oui, bon, bah, y a des gros zizi qui se dressent, voilà, bon, rien de très extraordinaire, quoi.
Oui, ça, c'est gentil.
Ah oui, bah, moi, j'ai. Franchement, les zizi qui se dressent.
Nous, on est habitués. Non. Déjà.
Allons, restons calmes dans ce studio.
Non, mais franchement, si c'est ça le voyeurisme, non, je pense pas, non.
Non, par contre, non, c'est pas ce que je voulais dire.
Non, on est d'accord.
Et moi, il est bien ailleurs, le voyeurisme.
Oui. Alors, Strasbourg, juillet 1518, pour resituer quand même, parce qu'on l'a pas dit aux auditeurs, ça. C'est une BD qui... Donc, entre autres sujets, aborde et donne à voir de la danse. Mais moi, j'y ai cru à cette danse. C'est-à-dire que j'ai vu cette BD et j'ai vu les gens danser au point que j'ai entendu la musique sur laquelle ils dansaient, alors qu'il n'y a pas de musique. Au départ, il n'y a pas de musique, ils dansent, c'est des gens qui se mettent à danser.
Oui, il n'y a pas de musique parce que c'est une BD, dans l'histoire même.
Il y a un moment donné, ils font intervenir des musiciens.
Et ça ne sert à rien d'ailleurs.
Ça ne sert pas à grand-chose.
On ne va peut-être pas raconter.
Et il y a une perle que j'ai repérée qui sort de la bouche d'un évêque. Alors je cite, « Chercher à comprendre constitue une atteinte blasphématoire à la sphère divine. » Alors moi, pour avoir lu ça, je dis oui.
Enfin, moi, sur une BD comme ça, je vais dire, je préfère 100 fois d'aller voir la danse macabre dans l'abbatiale, dans l'abbaye de la Chaise-Dieu, qui est exactement, pratiquement la même iconographie que le dernier dessin, la dernière planche de la BD. Et puis surtout, par rapport aux événements qui sont cités, il y a l'extraordinaire bouquin de Van der Meulen sur les anabaptistes qui est sorti chez Six Pieds Sous Terre et qui va vous faire voler, mes petits amis, 10 fois plus haut que cette petite bluette.
Écoute, cette petite bluette a quand même l'intérêt de pouvoir faire rentrer les gens dans cette danse et de pouvoir faire susciter un intérêt. Et quand tu parles de cette dernière planche, c'est pour moi une évidence que le dessinateur s'en est inspiré. Il n'y a pas de hasard.
Oui, je pense.
Alors on peut être d'accord pour dire que quand même le travail de Richard Guérino, il est à la hauteur quelque part. Les planches sont plutôt bien dessinées. C'est vrai que Delcourt fait une collection sur les adaptations de Jean Tellet, donc ça rentre peut-être un peu dans un carcan. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est déjà d'aborder naïvement ce fait divers qui est quelque chose qui est avéré, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens, on ne sait pas trop pourquoi, ils se mettent à danser, ils ne peuvent pas s'arrêter. On est au XVIe siècle, tu l'as dit, Toups, et quelque part, il y a une incompréhension tant de la part du pouvoir étatique, donc le maire, que du pouvoir ecclésiastique, et qui, lui, ne trouvera pas d'autre solution, de toute façon, que d'éradiquer un peu version commune, si j'ai envie de dire.
Oui, c'est l'éradication ferme.
C'est la même radicalité.
En gros, quand on ne comprend pas, on le cache, on le tue, on l'occupe.
On supprime le problème.
Et voilà, donc c'était ça qui m'intéressait, plus que, en effet, tu l'as dit, le roman, la prose de Jean Tellet, peut-être ce côté un peu voyeuriste, peut-être qu'il ne prend pas assez de recul sur les faits divers dont il s'inspire. Ça, on pourrait.
Il y a aussi, moi, tout le début, je trouve que quand tu parles du dessinateur, là, moi, ça m'a poignée, quoi. Bon, après, c'est en tant que maman aussi. Mais c'est tellement horrible tout ce début là avec
quand
les enfants.
Bah,
c'est quoi le choix ? Soit on le tue, soit on le bouffe. Enfin, c'est une horreur totale et ça rend fou effectivement. Et c'est ce cri là quoi qui est même plus possible à pousser.
Nous sommes bien d'accord. Sans transition, sans transition, nous allons passer à Matahari, une bande dessinée de Gilles et Paturo chez Magen. D'abord, peut-être rappelons qui était Matahari. Luc, tu dirais quelques mots ?
Matahari était une femme, voilà, accusée d'espionnage. Matahari, qui pourrait deviner sous ce nom que c'est une femme ? Donc Matahari est une femme exécutée par la France pour fait d'espionnage à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Première, excuse-moi,
je suis bouleversé par cette aventure. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, sous-entendu dans la BD que peut-être que cette exécution était un prétexte. Voilà.
Oui, alors on pourrait rajouter qu'elle a vécu plusieurs vies, qu'elle a vécu de passion, elle a su rencontrer des gens intéressants, certains importants. Et qu'elle a, quelque part, été partie prenante de la grande histoire, du coup.
Oui.
Toups, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande dessinée ?
J'ai pensé qu'il y avait un grand intérêt historique. On peut dire que c'est un bel objet, que c'est bien fait. Alors, personnellement, je n'ai pas été emmené, je n'ai pas été séduit, mais je reconnais que j'ai appris des choses, comme par exemple... ne serait-ce que la signification de ce nom Matahari que je connais depuis l'enfance, comme peut-être tout le monde a déjà entendu en France le nom de Matahari sans savoir ni qui elle était, ni qui c'était, jusqu'à ce qu'on sache que c'est une femme, ni ce que ça voulait dire. Alors Matahari, ça signifie l'œil du jour. Super. Dans une langue indonésienne qui est sans doute le javanais. Oui. Parce que c'était sur Java qu'elle avait appris la danse.
T'es pas obligé de faire long, hein.
Voilà.
Tu t'as rien à dire.
Non, mais ça m'a pas emmené plus que ça, mais c'est intéressant. C'est pas inintéressant. Voilà.
Linda ? Tout pareil que tout.
Elle est belle, quoi.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Mais effectivement, j'ai trouvé ça. Si vous voulez, c'est comme si on est branché danse, là pour le coup c'est la thématique du soir. La danse, c'est pas l'art des formes, hein, c'est l'art du mouvement. Et là, j'ai pas trouvé de mouvement, quoi. J'ai trouvé de belles formes, tu vois, mais pour moi c'était un peu figé, quoi. Après, effectivement, j'ai même pris des notes historiques, alors à vérifier, à recouper. Hein, je sais pas s'ils sont vraiment très rigoureux au niveau des faits.
Ils sont pas mal rigoureux. Alors, pour revenir à ce que tu disais, moi, je pense aussi que Peut-être que c'est volontaire de la part des dessinateurs et des scénaristes, parce que en fait, Mata Hari, c'est une personne qui est jamais synchrone avec la, avec ce qui se passe. Elle est jamais en synchro. Elle vit un peu tout ce qu'elle a envie de vivre.
Mais par rapport à quoi tu dis ça, hein?
Ben, par rapport au fait que, à début, c'est elle qui est une précurseur quelque part de toutes ces danses orientales qu'elle va, ouais, qu'elle va contribuer à créer. Et puis elle suit en fait le cheminement de son cœur quelque part. Et elle devient totalement, on a l'impression d'avoir on a l'impression d'avoir un peu une sinusoïde qui est décentralisé par rapport au reste. Je ne sais pas comment dire ça.
Excuse-moi, c'est comment, par rapport à ce que j'ai dit
Je pense qu'elle est toujours, elle est toujours en décalage avec l'histoire.
D'accord. Non, mais moi, je disais juste par rapport au dessin, vraiment.
Oui, oui.
J'ai bien compris. Oui, d'accord. Mais d'abord, c'est moi qui ne comprends pas.
On a un personnage qui est un peu à l'image de ça, ouais, quelque part. Il faut resituer. Elle suit un mari qui va devenir violent en Indonésie. Elle est toute seule. Elle a un premier enfant qui va mourir. Elle a un deuxième enfant dont elle sera séparée. Et elle va se retrouver sur le vieux continent sans un sou. Et là, c'est une des premières femmes libres qui va être obligée de faire son petit bonhomme, sa petite bonne femme de chemin.
Oui, alors après, je dis, au niveau de l'histoire de la bonne femme, je trouve ça, enfin voilà, c'est emballant et tout. Je parlais vraiment le graphisme. Moi, j'ai vu une belle plante qui était posée, quoi.
Après, ce que moi, je trouve intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est comment elle va être instrumentalisée par les états-majors, qu'ils soient allemands ou français, quelque part. T'en dirais quoi, Luc?
Oh, oui, enfin, on peut avoir une lecture en surplomb de la BD, mais après, si on revient sur la BD, moi, j'ai effectivement, il y a cet aspect-là, mais ce qu'il y a, avant tout, on est devant l'objet, on est un objet qui est donc fait sur le principe, c'est l'art nouveau, donc on est dans une illustration qui est, rappelle l'art nouveau fondamentalement. L'aérographe de l'ordinateur, il a dû tomber en panne à un moment ou à un autre. C'est pas possible de colorer comme ça. Et puis, pour moi, il y a un petit souci. À un moment donné, il fait dire à Mata Hari, j'avais perdu la grâce de mes jeunes années et mes rivales occupaient le haut de l'affiche. Ça, c'est page 45. On la voit page 48. Et si on compare au début de la BD, elle est aussi belle au début qu'à la fin. Elle ne bouge pas, elle ne prend pas une ride.
Oui, hein. Oui, c'est pour ça, du côté figé, je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi.
Elle ne prend pas une ride et puis...
Et puis elle a 30 ans quand tu dis qu'elle est vieille, etc. Mmh, ouais. Elle a donc 30 ans et elle est belle, comme c'est un vrai canon, quoi. Mmh. Donc bon, oui.
Oui, c'est vrai qu'on peut... regretter ce côté figé.
Voilà, bon, si on parle vraiment du dessin...
D'accord. Eh bien, on va finir par « Seuls sont les indomptés », une adaptation du roman d'Edouard Eubé, paru chez Sarbacane, à l'initiative de Max de Radiguès. J'espère quand même que cette bande dessinée vous a intrigué, voire intéressé. Linda ?
Et pourquoi tu me regardes ?
Bah, parce que tu souris.
Oui, je rigole, parce que j'espère que je ne vais pas te décevoir.
Mais non, moi je suis, comme tous les auditeurs, je suis naïf, là, oh, j'attends.
Ouais. Alors justement, le côté naïf du dessin, des couleurs très, j'allais dire, pas basiques, mais enfin tranchées, simples et tout, ça m'a intéressée. Alors moi j'ai eu un souci avec ce bouquin, c'est le film, je l'avais non-stop dans la tête. Et je me dis, oh non, mais c'est pas... Bah, connaissant déjà la chute, et j'avais ce film m'a énormément marqué, quoi. Et donc, il m'a empêché de savourer la BD. Donc, je pense que je vais passer tout de suite la parole pour que ce soit plus positif.
Alors, disons...
À la seule personne de l'assistance qui n'a pas vu le film. C'est moi.
Et oui, donc, alors attends,
je l'ai pas vu non plus.
Ah, c'est vrai.
Et oui,
deux personnes ici n'ont pas vu le film dont nous parlons depuis tout à l'heure et que nous ne savons pas ce que c'est exactement. C'est un film qui...
Merci de nous récupérer.
C'est à l'origine, il y a un roman d'Edouard Eubé et il y a un acteur qui est énorme, qui n'est toujours pas mort aujourd'hui, qui s'appelle Kirk Douglas, qui a 103 ans,
Kirk.
Et qui lit ce roman et qui est totalement retourné par cette lecture et qui décide d'acheter les droits et il va Il ne va pas réaliser le film, il va en être le producteur. Et il tourne donc une espèce de western crépusculaire dans lequel se trouvera à un moment donné un hélicoptère. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Linda, c'est que Max Rodriguez choisit de prendre un personnage jeune, alors que le personnage qui est incarné dans le film, c'est Kirk Douglas. C'est un Kirk Douglas vieillissant et on a du mal, en effet, à ne pas s'imaginer Kirk Douglas à la place de ce personnage. Mais laissons la parole à ceux qui n'ont pas vu ce film. Heureux soit-il, car ils pourront le voir.
Surtout que le rapport au cheval est magnifique.
Exactement. Bien. Toups.
Alors pour moi, c'est un très bel objet graphique. 172 pages qui se lisent à peu près en 10 minutes. Ça se lit comme on lit un storyboard. On a l'impression de voir un storyboard, en fait. Donc avec beaucoup de plans, sans paroles, et puis des séquences. On comprend assez rapidement le sens du titre...
Seuls sont les domptés.
Pour moi, il y a une analogie avec un autre film qui s'appelle The Misfits, avec Marilyn Monroe, et surtout avec cette chanson de l'album Brigitte Fontaine est folle, période Jacques Higelin, où Brigitte Fontaine scande en guise de refrain « Je suis inadapté ». Oui. Alors, que fait la société des personnes qui ne rentrent pas dans le moule? C'est ça, en fait. Hein. Dès l'école, c'est la mise à l'écart. Ils en parlent pas mal de l'école, d'ailleurs, dans cette BD. Et idem après l'école, avec ce que l'homme a inventé de mieux pour discriminer...
T'as du mal, là.
Avec ce que l'homme a inventé de mieux pour discriminer en parfaite bonne conscience.
Bravo.
La morale. Alors ici, il y a deux Navajos qui prennent 90 jours de tôle pour état d'ivresse et avoir parlé à une femme blanche. Ça, c'est génial. C'est l'Amérique. C'est magnifique. Alors, je ne pensais pas avoir l'occasion de citer une référence chorégraphique à propos de cette BD, mais je crois que vraiment, cette BD t'a rapproché de Maybe, de Maggie Mara.
J'en étais sûre. Vous avez vu ça?
Lequel?
Non. Maybe.
Non.
Bon, non, c'est sur l'esprit, l'expulsion du groupe quand on n'est pas avec l'esprit grégaire.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe si par hasard on essaye de sortir du groupe?
Oui, de faire un pas de côté.
Et tous les efforts qu'on fait pour rentrer dans le groupe.
Moi, je vais être assez bref, hein, parce que moi, j'ai lu le roman. Voilà. Et alors, ceux qui n'ont pas vu le film ont peut-être quelque chose à rattraper, mais ceux qui n'ont pas lu le roman... Il leur manque quelque chose. Voilà.
J'ai noté.
Voilà. Alors, l'adaptation est bien, mais elle me semble longue. La BD me semble très longue. Le roman, pourtant, je l'ai refeuilleté chez moi. En fait, il fait 330 pages. Il est donc long, mais j'ai toujours le souvenir dans ma tête d'avoir lu ça en deux temps, trois mouvements. Mmh. Et Edouard Dabey, il faut se rappeler qui c'est. Edouard Dabey, c'est un écologiste. C'est important. Il a toujours été un militant de l'écologie depuis bien avant que ce soit à la mode. Il a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle Le gang de la clé à molette.
Parlait tout à l'heure avec Julien.
Qu'il faut lire et relire parce que ça, c'est une bonne leçon. Mais sinon, moi, il y a un graphisme qui est intéressant, il y a quelques planches qui sont intéressantes. Mais honnêtement, je trouve que la BD, en fait, par sa longueur, peut-être manque d'efficacité. C'est un peu comme ça que moi je la lirais.
D'accord.
Oui, ouais. Alors pour conclure, moi je dirais que les pages qui m'ont le plus enthousiasmé dans cette bande dessinée sont les pages sans bulles, sans texte.
Tout à fait.
Où on retrouve totalement Edouard Rebet dans ce qu'il est, dans ce qu'il pense. Et que après, parfois, je trouve ça un peu logoréique et qu'on perd de quelque chose. On peut difficilement faire une bande dessinée comme ça sans texte. Ça aurait été intéressant quand même de voir ce qu'il en aurait fait. Mais voilà, puisque le temps qui nous est imparti est déjà
bien entamé.
On va récapituler vite fait. Seuls sont les indomptés de Max de Rodriguez chez Sarbacane. Vous pouvez quand même aller voir ça et sinon vous plonger dans les romans aussi qui sont parus tous chez Game Master. Matari de Gilles et Patoureau chez Daniel Mangan. Et Entrer dans la danse, d'après Jean Tellet, de Richard Guérino, c'est chez Delcourt dans la collection Mirage. Voilà la suite maintenant.
Mmh. Dans le wagon-restaurant, tout était prêt. Poirot et M. Bouc étaient assis côte à côte à la même table. Le docteur Constantine avait pris place de l'autre côté de l'allée. Poirot avait devant lui un plan de la voiture Istanbul-Calais sur lequel les noms des passagers et le numéro de leur compartiment avaient été portés à l'encre rouge. Les passeports et les billets formaient deux piles nettes et chacun disposait d'encre, de papier et de plumes. « Voilà qui est parfait, » dit Poirot. « Nous pouvons débuter l'instruction sans attendre. »
Le lecteur de cette adaptation en livre audio n'est autre que Samuel Labarthe, l'acteur qui interprète Swan Lawrence, le fameux commissaire des petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2. La série ne saurait être parfaite sans la pétillante et impétueuse journaliste Alice Avril, Blandine Bellavoire, une sécotine de Spirou et Fantasio en puissance, et aussi la très glamour secrétaire du commissaire, j'ai nommé Marlène Dietrich-Leroy, Elodie Frank. Audiolib s'est fait une spécialité de proposer l'œuvre d'Agatha Christie en livre lu. Samuel Labarthe propose ses versions de Mort sur le Nil et aussi du Crime de l'Orient Express. Quant à Grégory Gadebois, l'acteur de la Comédie française, qui a joué aussi bien dans Ubu Roi que dans Les Revenants, il nous emmène dans un huis clos insulaire en compagnie des dix petits nègres. C'est donc chez Audiolib et c'est la reine du crime, donc suspense garanti. Alors Toups, comment ça jazz ?
Ça jazz, super. Alors la semaine dernière, j'ai réussi le pari incroyable de faire une chronique sur Charlie Mingus en moins de 3 minutes chrono. D'ailleurs, à ce propos, tous ceux qui avaient parié contre moi, s'il vous plaît.
Dette d'honneur.
Bon, c'est pas grave. Peu importe. J'ai juste envie, pour finir, de parler de l'influence que Mingus a eue sur d'autres musiciens, bien au-delà des frontières du jazz. Alors, la semaine dernière, nous avons écouté la version 1979 de son hommage à Lester Young, Goodbye Purple Hat, par la reine de la folk pop, la canadienne Joni Mitchell. Figurez-vous que ce titre a été repris toujours somptueusement par le guitariste de rock, de blues rock, de hard rock, de rock instrumental et de rock progressif Jeff Beck. Dans l'album Wired de 1976, produit par le producteur des Beatles, George Martin, en chair, en os et en personne.
Himself.
Figurez-vous que Mingus a écrit une lettre à Jeff Beck pour le féliciter. Il y a une autre chanson de Charlie Mingus, Fables of Phoebus, qui est un hommage au gouverneur de l'Alabama, un certain Phoebus, qui était un très, 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 très grand raciste. Pour la reprise cette fois, c'est l'homme amoureux du jazz, de la java, du swing et de la langue française qui s'y est collé. Claude Nougaro, dans l'album Nougat York, sorti en 1987. Pourtant, ce n'est pas un écureuil à Central Park que j'ai envie de vous faire écouter ce soir, non. C'est une ballade composée par le saxophoniste ténor Don Byas dans une version très fidèle à l'esprit de la version d'origine, avec des paroles françaises du grand poète de la Ville Rose, dont le titre est « Gloria ». Gloria, on la trouve dans l'album de 75 « Femmes et famines ». Pour cette ballade suave, Nougaro s'offre le luxe et fait le pari insensé du saxophoniste cofondateur du free jazz, Ornette Coleman. Vous allez voir, c'est fabuleux. Et là, vous allez me dire, c'est quand même fou le hasard.
Oh, c'est quand même fou le hasard.
C'est dingue. Gloria, c'est aussi le titre d'un film de John Cassavetes. Oui, vous savez, cet immense cinéaste américain d'origine grecque. Vous savez, de l'époque où l'Amérique se définissait comme un creuset et la France comme un carrefour. Vous savez, le cinéaste qui a initié le mouvement du cinéma américain indépendant, dont la musique du tout premier film, Shadows, avait été composé par un certain...
Charlie Mingus,
avec entre autres titres fabuleux, Nostalgia in Times Square. Cassavetes, comme dans Meurtre d'un bookmaker chinois, parle encore des lois de la mafia dans Gloria. Gloria n'était pas le film préféré de Cassavetes, parce que c'était une commande et une forme commerciale, qui a été un succès commercial, alors que ses films à lui le ruinaient. Ce qui permet quand même de vérifier que, au fond, peu importe la forme, il restera toujours une chose qui caractérise les grands artistes. Cette chose, ça s'appelle le talent.
Gloria, de quel côté du globe
tombe à tes pieds. La blancheur de ta robe, Gloria, Gloria. Ainsi chantait tout doux un troubadour assis sur le rempart démantelé de Montségur. Par une nuit étoilée, Gloria, Gloria, murmurait un vieux troubadour. S'il est un Dieu, Dieu est très bon. Or dans le monde, rien n'est bon. C'est donc que ce monde n'a pas été fait par Dieu. Et pourtant, sous la cendre cathare, je t'aperçois, brillante comme un phare, tout là-bas. Gloria, dans mon patois, j'entends depuis toujours le choc sourd de ta beauté qui passe et de l'amour nous désigne l'espace. Gloria, Gloria, murmurait le vieux troubadour. Parfois j'ai peur.
Je vous invite vraiment à écouter cette version. Là, on n'a pas le temps de la passer en entier, mais c'est juste fabuleux jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. On enchaîne.
Vous écoutez toujours Radio G sur le 101.5 FM et ne vous endormez pas maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on va causer noyade, non pas littéraire, mais en pleine mer. Nous n'avons pas en France de romans cultes maritimes comme Moby Dick ou Le vieil homme et la mer. Alors bien sûr, il y a 20 milieux sous les mers, magnifique roman allégorique de la lutte contre le capitalisme galopant. Mais bon, il est sous la ligne de flottaison, donc il ne compte pas vraiment. Mark Haskell Smith, c'est très compliqué à dire, est de retour. L'auteur du très déjanté À bras raccourcis, par ailleurs auteur de Salty ou de Défoncé, arrive chez Gale Meister avec un roman à l'humour mordant mais toujours moraliste. L'histoire est somme toute banalement classique dans notre monde à l'agonie économique. Un trader se fait la malle avec un joli pactole. Enfin, pas si joli que ça, puisqu'il s'est limité à quelques millions de dollars, ce con, quand il aurait pu embarquer quelques milliards. Mais le crime, qui n'est pas en col blanc, ne doit pas payer. C'est ainsi que notre voleur se voit pourchassé par un étrange trio. Je vous les liste. Une américaine d'origine asiatique qui doit convoler en juste noces et qui se découvre nymphomane devant les abysses qui s'entr'ouvrent d'un mariage mort avant que de naître. Un nain turgescent, digne d'un film de David Lynch, qui parle au cul des femmes. Enfin, un homosexuel psychopathe refoulé, qui n'a même pas une once d'empathie pour lui-même. Bon, Neil Nathanson, le voleur sympathique, il veut juste vivre loin du monde sans faire chier, aura aussi d'autres chats à fouetter, et l'histoire de la course-poursuite va être vraiment, vraiment sanglante. D'ailleurs, son unique survivant croise dès le début du roman une jeune femme qui fait le tour du monde en solitaire. Survivant, unique, à voir. Mark Haskell Smith combine humour et réflexion dans un roman subtil et mordant qui n'hésite pas à transgresser le bon sens. On l'attendait à Tribord depuis Radamère, un premier roman paru au Rouergue. Ronan Gouezec est de retour avec Masse Critique. Le début nous embarque au milieu d'un naufrage maritime annoncé. La suite sera le long naufrage de plusieurs personnages, dont certains en quête de rédemption. Surtout, on suit deux amis, Marc et René, deux personnages aussi généreux que volumineux, qui s'aiment d'une amitié tenace qui va dériver tout au long de ces 200 pages terribles. L'histoire est sordide, il y a de la revanche à revendre. Surtout, Ronan Gouezec est un écrivain très pointilleux quand il s'agit de dépeindre ses personnages. Les monstres se cachent dans les abysses et surtout dans le passé, et le hasard s'amuse des déchéances pour en rajouter quelques couches. Roman de la fraternité ébranlée, de la colère refoulée, Masse Critique est également le récit en abîme du point de rupture et de non-retour. Coup de vent, de Mark Haskell Smith, c'est chez Gallmeister. Masse Critique, de Ronan Gouezec, c'est au Rouergue. Ou quand deux auteurs mettent les pieds dans l'eau. Et maintenant, c'est l'heure, enfin, c'est l'heure de ce feuilleton radiophonique que nous attendions tous.
Renifleur & Co. Mise en scène, Linda Gonin. Avec les voix de Laure Gélin, Toute Bébé et Linda Gonin.
Cabinet des avocats Renifleur & Co. Non, maître n'est pas encore là. Il est au palais. Merci. Renifleur & Co. Non, maître Renifleur est au palais. Je l'attends d'un moment à l'autre. D'accord. Bonjour monsieur Renifleur, ça va?
Laissez tomber. Appelez-moi le président Hoover. Ils ont affiché au commissariat une photo de moi qui ne me ressemble pas. On dirait mon père. D'ailleurs, c'est mon père. Laissez tomber le président.
Tâchez plutôt de découvrir le montant de la prime.
Monsieur Renifleur, vous avez des lettres à signer.
Pas maintenant, pas maintenant! J'ai eu une rude journée au palais.
Quelle affaire?
Des ordres sur la voie publique, mais je crois que je m'en tirerai. C'est elle qui a frappé la première.
Monsieur Renifleur, vous avez frappé une femme?
Une femme de ma taille? Plus petite même. Des coups de fil?
Oui, de vos créanciers, toute la matinée. Ils disent qu'ils en ont assez de téléphoner et qu'il faut prendre des mesures.
Très bien. Je vais prendre des mesures. Débranchez le téléphone.
D'accord.
Brave fille, je vous augmente de 10 dollars.
Merci, monsieur Renifleur.
Ah, de rien, de rien.
À propos, si vous me prêtiez ces 10 dollars jusqu'à vendredi.
Mais, monsieur Renifleur, ça fait des semaines que je ne suis plus payé. De plus, vous semblez...
Mais il y a beaucoup de choses que je semble ignorer. En voilà une sténodactylo. Qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? Les planchers ne sont pas lavés. Les fenêtres non plus et mes pantalons n'ont pas été repassés.
Mais, monsieur Renifleur...
Assez bavardé. Où sont ces 10 dollars?
Je n'ai pas un sou.
Je suis dans la dèche, je n'en peux plus. Je voudrais dormir, j'ai même plus de crèche. J'ai le cœur tout vide, main toute rêche.
Qui vous demande un sou? Si je voulais un sou, je casserais la tirelire de mon fils. Si, dis-moi, j'en avais un.
Ouais, bon,
bah,
je n'en peux plus.
Je me retire dans mon bureau. Le téléphone sonne, ne répondez pas! C'est peut-être un faux numéro.
Entrez!
Buongiorno. Mon nom c'est Emanuele Ravelli. Se bastasse una bella canzone. A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione. un milione di volte bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare a amare di più.
Allora, le patron, il est là?
Il est occupé. Vous avez une carte de visite?
Si, ma s'en faut bien une autre. Je vais voir les patrons.
À quel sujet?
Au sujet d'un divorce.
Monsieur Reniflard est très occupé. Il faut d'abord remplir un questionnaire. Vous voulez divorcer? Voyons, des enfants?
Si, 6 ou peut-être 7. J'avoue que ma voix, elle n'est pas très bonne. Attendez que je réfléchisse. Il y a Tony, et Josie, et Pasquale, et Angelino et Jake. Oh mais non, Jake. Jake, c'est le bambino du voisin. Je les mélange tous. Alors, il y a les piccolo bambino.
Un petit bébé? Un garçon ou une fille?
Ah, moi, je sais pas, moi, pourquoi il ne parle pas encore.
Vous êtes mariée depuis combien de temps?
Ah non, mademoiselle, ils ne sont pas mariés. Mon frère, il est marié.
Oh, c'est lui qui veut divorcer.
Mais non, lui, il ne veut pas, mon frère. Il aime sa femme, il est heureux, mais je crois qu'il est un peu toc-toc.
Vous voulez dire que vous le poussez à divorcer simplement parce que vous n'aimez pas sa femme?
Ah si, mademoiselle, je l'aime bien. Elle est brave, mais elle ne cuisine pas très bien.
Votre frère s'en plaint?
Non, lui, il est content. Il mange au restaurant.
Pourquoi ne faites-vous pas de même?
Mais je ne peux pas payer, je n'ai pas de travail.
Pourquoi n'en cherchez-vous pas un?
Ok, laissez tomber les divorces. Je prends les boules.
Il faudra que j'en parle à monsieur Reniflard. Où peut-on vous toucher?
Mais je ne sais pas, pourquoi? Je suis satouilleux.
Où vivez-vous, je veux dire?
Avec mon frère.
Asseyez-vous. Je vais appeler monsieur Reniflard.
C'était le premier épisode de Reniflard & Co, un feuilleton radiophonique en X épisodes, une histoire à suivre. L'espace public devant la bibliothèque d'Ingrandes de Fresnes-sur-Loire va être inauguré ce samedi 28 septembre. Une exposition créée par Masque Noir, la nôtre quoi, intitulée « Auteurs triés sur les volets » parle du fond de littérature policière et d'activités diverses et variées, dont les mercredis polars qui y sont proposés chaque premier mercredi du mois. Le numéro 200 de La Tête en Noir est arrivé dans les boîtes à lettres. Un numéro spécial avec une nouvelle inédite de Jean-Bernard Pouy et un supplément, La Tête dans le rétro, à la double pagination. Sinon, Franck Bouys continue de vendre son roman « Né d'aucune femme ». Il en est à 100 000 exemplaires et c'est parfaitement justifié. Une histoire terrible à mi-chemin entre François Mauriac et Jim Thompson. C'est également disponible chez Audiolivre et Livre Lu. Les éditions Carlotta sortent le 30 octobre « Autopsie d'un meurtre », le film d'Otto Preminger. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Et le 4 décembre, un homme nommé Cheval, un western d'Eliot Silverstein tiré d'une nouvelle magistrale de Dorothy M. Johnson, lire ses deux recueils de nouvelles chez Gallmeister. Dans l'intervalle, vous aurez pu voir la saison 5 de Peaky Blinders sur Arte les 24 et 31 octobre. Enfin, Rivage annonce un nouveau roman de James Ellroy qui viendra clôturer le Quatuor de Los Angeles pour novembre. Là aussi, on en reparlera. La semaine prochaine, place à nos amis d'imaginaire, et non pas nos amis imaginaires. Nous, on se retrouve dans 15 jours, et maintenant, c'est Ça dégouline dans le cornet.
On dit pas au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.
Radio G 101.5 FM.